Donc, bonjour, cher public. Vous êtes sur les ondes de CFAQ. Mon nom est Elisabeth.
Et moi, Esther.
Et vous écoutez maintenant une capsule dans laquelle nous aborderons les personnes en situation d'itinérance. Ces capsules sont réalisées par 4 étudiants et étudiantes au baccalauréat en droit en collaboration avec Pro Bono. Notre équipe est composée de Étienne Madelin, Esther Gravel, Sarah Dumoulin et moi-même, et nos capsules traitent du droit criminel. Bonne écoute! Nous devons tout d'abord préciser que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Elle a été préparée à l'aide d'étudiants et étudiantes en droit bénévoles de la section Pro Bono Student Canada de l'Université de Sherbrooke. Les étudiants et étudiantes de PBSC ne sont pas avocats-avocates et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate.
Donc, nous sommes aujourd'hui particulièrement très excités. Donc, nous avons la chance d'avoir comme invité professeur Véronique Fortin, qui enseigne à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2015 et membre du Barreau de Québec depuis 2007. Donc, bonjour, professeur Fortin.
Bonjour.
En fait, le professeur Fortin détient un double diplôme en droit civil et en common law de l'Université McGill, ainsi qu'une maîtrise en sociologie du droit de Onyati International Institute for the Sociology of Law. Elle a ensuite travaillé notamment comme recherchiste du juge en chef de la Cour d'appel de Québec, Michel Robert, et comme directrice adjointe du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. C'est en 2015 qu'elle a complété un doctorat en criminologie, droit et société à University of California, Irvine. Ses recherches actuelles portent sur la judiciarisation de l'itinérance, la répression des manifestants-manifestantes et le contrôle pénal de l'espace public. C'est donc pour toutes ces raisons que c'est une énorme chance de l'accueillir sur notre balado.
Donc, merci encore, professeur Fortin, d'être avec nous aujourd'hui. Fait que comme on vous en avait parlé un petit peu, là, aujourd'hui, notre plan, c'est vraiment d'y aller, de discuter avec vous, une conversation fluide. Puis, on a préparé quelques questions pour orienter la discussion, mais on n'est vraiment pas obligé de toutes les aborder. T'sais, on veut avoir du plaisir, fait que c'est ça l'objectif. Fait que, Esther, est-ce que Parfait. Tu veux commencer avec notre première question?
Bien sûr. Donc, professeur Fortin, là, la population itinérante ne cesse d'augmenter. En fait, on peut voir ce phénomène surtout à Montréal. Et il y a une forte augmentation là, des constats d'infraction émis auprès des populations itinérantes. Dans le rapport de recherche intitulé « Judiciarisation et criminalisation des populations itinérantes à Montréal », en fait, on a dénombré là, qu'entre 2012 à 2019, il y avait eu 50 727 constats d'infraction remis à des personnes en situation d'itinérance. Donc, bien que la plupart là, soient des infractions pénales et non criminelles, quel effet cela a-t-il sur le système de justice? Est-ce que ça a pour effet d'engorger le système?
réponse courte, réponse longue à cette question-là. Réponse courte, effectivement. C'est sûr que tout dossier, toute infraction se ramasse dans le système, suit son cours dans le système de justice pénale et criminelle et puis a un impact. Ici, je veux juste quand même faire une petite précision, c'est-à-dire que les chiffres que vous citez sont tirés d'un rapport là, qui s'appelle « Judiciarisation d'itinérance à Montréal », comme vous l'avez dit. Ça a été fait par Céline Bello et plusieurs autres co-auteurs. Et ce qui a été calculé ici, c'était seulement les constats d'infraction, donc pas du tout les accusations criminelles. Donc vraiment juste le pénal, là, ce qu'on appelle ouais. l'étiquette là, dans le langage commun. Mm-hmm. Cette étiquette-là, représente aussi la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que en raison de la méthodologie, c'est un peu difficile là, de savoir si une personne est réellement itinérante. Est-ce que c'est-à-dire que là, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est à partir des refuges, des adresses des refuges ou des mm-hmm. indications sur les constats qui seraient écrits sans adresse. Mais ça pourrait que la personne a donné l'adresse d'un membre de sa famille ou l'adresse d'un ami. Et donc là, cette personne-là serait en situation d'itinérance et pourtant ne serait pas recensée. Donc, quand okay. on dit que c'est la pointe de l'iceberg, ça veut dire que ces constats-là, c'est vraiment ce qui est visible dans les bases de données de la Ville de Montréal. Mm-hmm. Et pour revenir à la question, est-ce que ça engorge? Ben oui, parce que c'est sûr que quand le constat est, il doit être traité, c'est pas toutes les personnes qui les contestent. Par contre, il y a aussi des programmes sociaux là, à la Ville de Montréal. Il y a des mesures en place là, pour aider les personnes en situation d'itinérance qui reçoivent des constats d'infraction. Mais bref, oui, c'est sûr que ça a un effet dans le système judiciaire. Ça a un effet aussi financier. Dans le rapport, là, on voit, je retrouve la bonne donnée, là, que c'est de l'ordre de la dette judiciaire. Donc, les personnes en situation d'itinérance qui ont reçu des constats d'infraction qui se retrouvent dans nos données. Je dis « non » parce que tu as participé à ce projet.
Oui,
ce
dossier, c'est correct.
Donc, c'est... on dit que la dette cumulative est de 2012 à 2019 est de 17 millions de dollars à la Cour municipale de Montréal. Fait que c'est quand même une dette non négligeable. Puis on a essayé ensuite d'évaluer le coût. Hein? Combien ça coûte de donner des constats d'infraction à des personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas de moyens? Puis,
ouais.
Puis le type d'infraction aussi, il faut dire, hein, c'est des infractions comme... boire une bière sur le domaine public, être ivre sur le domaine public, ne pas avoir acquitté les frais du métro et se retrouver dans le métro. Bon, on a essayé de voir combien ça coûte, cette émission de constats-là. Puis encore une fois, une méthodologie un peu bancale, là, c'est-à-dire le plus simple possible parce que pour faire nos évaluations. Donc, en termes de... Si on disait que ça prenait 15 minutes pour un policier de remettre un constat d'infraction puis que les policiers sont à peu près payés 41 $ de l'heure, ça, c'est le tarif médian, bien, on disait que c'était à peu près... plus d'un million de dollars qui ont été consacrés à la remise de constats d'infraction. Donc, encore une fois, de constats d'infraction à l'endroit des personnes en situation d'itinérance là, de 2012 à 2019. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, ça a un impact sur le système, mais ça a un impact financier aussi dans la gestion là, des affaires publiques à Montréal.
Mais c'est vraiment intéressant de voir justement ce côté de la médaille-là. J'avais comme pas pensé justement à comme comparer les coûts. En fait, là, qu'arrive-t-il quand ces personnes-là, là, ils sont pas en mesure d'acquitter leur amende, là? Est-ce que cela va pouvoir, est-ce que ça va résulter ensuite d'une incarcération?
Bon, ça, c'est une très bonne question. Donc là, on vient de parler des coûts là, que ça entraîne à l'État, mais c'est financier. Il y a des coûts sociaux aussi hein, pour les personnes de vivre cette judiciarisation. Et donc, encore une fois, on se rappelle que là, on remet des constats d'infraction à des personnes qui, ce qu'on dit, occupent l'espace public, là. Et donc qui n'ont pas d'autres endroits pour vivre et qui, pour vivre, dépendent de leur accès à l'espace public, les parcs, les rues, les trottoirs, le métro, et qui, pour survivre, là, doivent remplir certaines fonctions qui sont autorisées en privé, mais souvent interdites en public, voyons. Donc, autorisées en privé, interdites en public. Des actions comme dormir, hein, dormir sur un banc, c'est autorisé à la maison, mais dormir sur un banc de parc, parfois, ça peut entraîner un constat d'infraction pour mauvaise utilisation du mobilier urbain. Flânage, hein, rester trop longtemps à un même endroit, ça aussi. C'est autorisé de boire une bière chez nous vendredi soir, mais c'est interdit de le faire en public dans certains endroits. Et donc, les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'un accès à une maison, comme les personnes en situation d'itinérance, c'est qu'ils font ces actes par ailleurs autorisés, mais qui doivent les faire les performer en public, reçoivent des constats d'infraction pour leur occupation de l'espace public et leur usage de l'espace public. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que là, on remet des constats d'infraction de quelques centaines de dollars à des personnes qui sont dans des grandes, grandes, grandes situations de pauvreté qui n'ont pas les moyens. Donc, évidemment, la plupart du temps, c'est que les personnes en situation d'itinérance ne vont pas être en mesure d'acquitter leurs amendes. À Montréal, depuis plusieurs années, le milieu des années 2000 à peu près, en 2000-2010, je ne me souviens plus de la date exacte, là, mais on a suspendu l'émission de mandat d'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Donc, non, il n'y a pas à Montréal d'emprisonnement pour non-paiement d'une amende qui découlerait d'un ticket reçu là, pour avoir bu une bière sur l'espace public.
Est-ce que ça, c'est à Montréal plus précisément ou c'est vraiment dans notre système canadien?
C'est Québec, ça, là, au Québec.
C'est dans le code procédure pénale, parce qu'on est, encore une fois, on est dans le pénal réglementaire. Là, ouais. En tout cas, moi, c'est le domaine que j'étudie. Et on n'est pas dans le criminel. Et donc, okay. Ça, c'est régi par le code de procédure pénale, qui est une loi québécoise. Et dans le code de procédure pénale, jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2020, il était prévu que les personnes qui n'acquittaient pas leurs amendes pouvaient... se voir emprisonné justement pour défaut de paiement de l'amende. À Montréal, il y a eu comme cette exception où on a refusé d'émettre les mandats, mais dans le reste du Québec, jusqu'en juin 2020, ça s'appliquait.
OK, donc c'est vraiment juste à Montréal l'exception. Là.
Exact. Okay. À Sherbrooke, par exemple, il y a eu beaucoup d'emprisonnement pour non-paiement d'amende pour des personnes qui... il y a de l'itinérance à Sherbrooke. Puis effectivement, les personnes qui ne payaient pas leur amende pouvaient se retrouver en prison, justement, là, pour leur dette à la ville de Sherbrooke. Le non-paiement de leur amende. Pourquoi je dis jusqu'en 2020? Parce qu'il vient juste d'avoir une modification législative dans le code de procédure pénale qui dit que maintenant, pour qu'un juge soit, en fait, avant que le juge puisse émettre le mandat d'emprisonnement pour non-paiement d'amende, il doit, c'est pas dit comme ça, là, mais c'est un peu l'équivalent, il doit s'assurer de la capacité de payer du défendeur. Okay. Donc, on pourrait imaginer que là, une personne en situation d'itinérance qui fait face à un défaut de paiement et qui serait susceptible de se voir émettre un mandat d'emprisonnement contre lui, on pourrait imaginer que le juge se garderait une réserve avant d'émettre le mandat, puisque ça ne résulterait pas de son refus de payer, mais plutôt de son incapacité à payer l'amende en raison de sa grande pauvreté. Donc, ça va être intéressant de voir comment les tribunaux interprètent la modification au code de procédure pénale. J'ai l'impression que ça rend l'emprisonnement pour non-paiement d'amende des personnes en situation d'itinérance beaucoup plus difficile. Là.
Oui,
c'est
exactement.
Une bonne
oui, c'est ça.
Pour moi, une très bonne nouvelle.
Mais justement, par rapport à ça, là, en ce moment, tu sais, je pense qu'on en a des très bons exemples là, avec les nouvelles mesures gouvernementales, tu sais, le couvre-feu et tout ça. Tu sais, il y a beaucoup. J'avais entendu, on avait vu là, qu'au début, les itinérants étaient arrêtés parce qu'ils dépassaient le couvre-feu. Mais là, ça, tu sais, il est indéniable que les droits des itinérants ont été brimés justement par rapport avec le couvre-feu. Puis là, qu'est-ce que vous pensez de cet enjeu-là, du soit couvre-feu ou peu importe, les nouvelles mesures gouvernementales pour les personnes en situation d'itinérance qui les touchent directement, là, en fait?
Ah oui, merci de soulever cet enjeu-là. C'est un enjeu qui est très, très important dans le milieu. Ça se pose, c'est sûr que je connais le milieu montréalais un peu mieux, mais ça se pose partout au Québec. Donc, comme vous savez, peut-être là, les mesures de couvre-feu ont été contestées en cours. Et puis, il y a un juge qui a ordonné la suspension de l'application du décret aux personnes en situation d'itinérance. Et finalement, le gouvernement a pris acte de ce jugement-là. Il faut dire que ce n'était pas un jugement sur le fond, là, c'était un jugement... sur une injonction, en fait. donc, c'était temporaire, là, c'était une suspension temporaire, mais le gouvernement a pris acte et depuis, dans ses décrets, renouvelle là, cette exception-là aux personnes. C'est intéressant parce que dans le jugement, on parle de personnes en situation d'itinérance et dans le décret, dans le décret, mettons, là, qui parle du couvre-feu, l'exception, elle parle de personnes sans abri. Fait que là, est-ce que c'est des synonymes? Est-ce que c'est pas des synonymes? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que ça a été très grave. Les personnes en situation d'itinérance, comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'accès à un espace privé, sauf s'ils en ont l'autorisation, sauf s'ils sont acceptés et tout ça. Donc ça les mettait en situation d'illégalité, ce couvre-feu.
Exactement.
À la première heure, là, dès le moment du couvre-feu. Mais c'est le couvre-feu, il impacte les personnes qui n'ont pas de maison, mais il impacte beaucoup d'autres personnes en situation de marginalisation, de précarité. Je pense, par exemple, aux consommateurs de drogue par injection. Les personnes utilisatrices de drogue par injection sont en très... d'abord, on sait qu'il y a la crise des opiacés, il y a beaucoup de surdoses. Ces temps-ci, à Montréal, là, il y a une explosion des surdoses et le couvre-feu a un grand impact impact sur ces personnes-là aussi. Est-ce que c'est des personnes en situation d'itinérance? Pas tout le temps, mais c'est mm-hmm. certainement un effet pervers, négatif, très important du couvre-feu qui met des vies en danger, en fait, parce que là, la consommation est moins sécuritaire, elle ne peut pas se passer dans les sites d'injection supervisés mm-hmm. parce qu'ils ont peur de se mettre en illégalité en ne respectant pas le couvre-feu. Fait que, oui, le couvre-feu a un impact sur les personnes en situation d'itinérance, mais pas uniquement.
Oui, c'est ça.
Sur toute une catégorie de personnes qui est peut-être dans l'angle mort du gouvernement présentement, mmh. là, quand il impose ses mesures sanitaires. Là, le couvre-feu, il est bien facile à respecter quand tu vis dans une grande maison de banlieue avec une salle de bain.
C'est ça.
Il est pas mal plus difficile à respecter quand tu es dans une situation de grande pauvreté, de marginalité ou de vulnérabilité pour une raison ou une autre.
C'est vraiment intéressant, professeur Fortin. En fait, on a déjà toutes nous poser nos questions.
Ça va vite, oui.
Ouais. On se demandait si vous aviez d'autres commentaires à rajouter là, pour aujourd'hui, pour conclure cette capsule-là avec nous.
Merci de vous intéresser à ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et puis je suis contente que ça vous intéresse et que ça intéresse votre auditoire.
Oui, vraiment. Merci beaucoup. Puis juste, oui, je suis sûre que notre auditoire va adorer la capsule. Merci d'avoir pris le temps et de nous parler aussi des fois des enjeux qu'on ose peut-être un petit peu moins aborder. Tu sais, les nouvelles mesures gouvernementales, des fois, ça peut être comme un sujet un peu sensible. On ne sait jamais. Mais merci d'avoir répondu à nos questions. En fait, c'est très apprécié. Puis je suis persuadée là, que les étudiants ou peu importe les personnes, les auditeurs de la radio CFAQ vont adorer cette capsule.
Certainement, Elisabeth. Donc, merci encore, professeur Fortin.
Merci à vous.